Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Connaissez le cantique, hein, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines disparaîtraient, bien, Dieu nous dit, bien, mon amour ne te délaissera pas et ne t'abandonnera point. Voilà. Alors, c'est dans Ésaïe quand même. Ésaïe, chapitre 55, nous allons faire notre lecture dans le chapitre, donc 55, le verset 6 à 9. Ça sera bref, hein. Voilà. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner. Et le verset qui nous intéresse, c'est celui-ci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, il y a dans ces quelques versets, 3-4 versets, des choses intéressantes parce que ça commence par chercher. Et vous savez que notre vie, on fait que ça. Hein. On fait que de chercher quelque chose. On cherche des choses qui sont indifférentes, tout simplement de la vie, et bon, elles sont nécessaires, mais ça n'a pas une grande importance, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus conséquentes, voire même essentielles, et c'est précisément, eh bien, ce que nous adresse le prophète, inspiré par Dieu, chercher l'Éternel pendant ce qu'il est prêt. Et je crois que la proximité de notre Dieu, eh bien, c'est le jour, c'est la nuit, c'est chaque heure, c'est chaque minute, chaque seconde que nous pouvons le rencontrer parce que il est disponible. Voilà. Il est l'éternel présent, d'ailleurs, comme Jésus le dira, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il nous est demandé non seulement de le chercher, mais de l'invoquer. Il y a une autre démarche qui fait suite. C'est-à-dire que, au moment où véritablement je perçois la présence de Dieu, c'est pas lui qui n'est pas là, c'est moi qui ne suis pas auprès de lui, où je n'ai pas la conscience qu'il est auprès de moi, et à partir du moment où je sens, où je ressens, bien que ce ne soit pas une affaire de ressenti, c'est une affaire de foi, on l'a bien compris, alors je l'invoque. Et je lui dis tout ce dont j'ai besoin de lui dire. Je peux lui vider mon cœur, je peux lui apporter mes tristesses, mes chagrins, je peux lui apporter aussi, et c'est ce que nous allons voir, mes joies, mes bonheurs, les choses qui sont extraordinaires dans ma vie, et puis les choses qui sont dans le commun de mes journées. Parce que je voudrais le rappeler à dessein ce matin, c'est que le plus grand miracle de tous le plus grand miracle de Dieu, ou les plus grands de tous les miracles de Dieu, c'est finalement l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et ça, nous avons du mal à le comprendre parce que nous aimerions tellement être comme Habacuc, dont il avait prié, il lui a dit, Seigneur, eh bien, rends-moi mes pieds semblables à ceux des biches et que je puisse marcher sur le haut des montagnes. Alors, je ne sais pas, si vous marchez tous les jours sur le haut des montagnes, moi, j'en reviens et je suis resté dans la vallée. Parce que c'était trop difficile d'arpenter, là, enfin, bon, quand je suis allé en haut, je suis allé en voiture, c'est plus simple. Mais bon, c'est un petit clin d'œil au passage. Mais toujours est-il que, cherchez-le, invoquez-le, et il nous est montré deux catégories d'individus. Il y a le méchant qui suit ses voies et qui finalement, eh bien, aboutira au résultat de ce qu'il a semé. Voilà, hein, le méchant, il nous est dit, l'homme d'iniquité, mais avec toujours quelque chose dont nous allons nourrir notre pensée aujourd'hui, avec toujours que s'il y a la possibilité pour le méchant ou celui qui fait le mal de comprendre et de réaliser que s'il revient en arrière, eh bien, Dieu va pas le rejeter, il va pas le juger, il va le prendre. Et il va lui pardonner dans la mesure où il y a une véritable repentance et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, voilà. Et ça s'appelle de quelque chose dont nous allons mettre véritablement dans notre message, remplir notre message, c'est la grâce. Vous avez une petite idée de ce qu'est la grâce? Ah, alors on y reviendra à plusieurs reprises, hein. Mais la grâce, c'est quelque chose de tout à fait particulier. La foi, on sait, on parle moins de la grâce, comme quelque chose dont on vit tous les jours, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'on ne serait plus là, hein, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Il y a longtemps qu'on aurait disparu, hein, ça c'est certain. Nous subsistons, nous survivons, nous vivons par la grâce de Dieu. Et le titre que j'aimerais donner à notre réflexion, on aura d'autres volets, hein, de la question, parce que je pense que c'est fondamental. Je crois que l'Église a besoin d'être nourrie dans la foi, de construire sa foi, d'expérimenter sa foi, de pouvoir réaliser la foi en Dieu dans l'abandon total que nous mettons dans celui qui est au-dessus de nous et tout puissant, naturellement. Mais en ce qui concerne la grâce, c'est une autre affaire, parce que c'est comme une caresse qui passe dans la vie, dans nos vies. Mais nous ne la ressentons pas toujours, pour la bonne raison qu'elle devient quelquefois, excusez-moi l'expression, je voudrais choquer personne, mais tellement banalisée. Ah, et la grâce. Aujourd'hui je vis, c'est par grâce. Aujourd'hui j'ai un travail, c'est par grâce. Aujourd'hui je suis, somme toute, en bonne santé. Mais c'est une grâce, parce que c'est comme ça, tout simplement. Alors, dans ce chapitre, et particulièrement les deux derniers versets, il nous est dit « Mais autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, vous pouvez pas vous imaginer ce que ça peut être la différence. » Non, on peut pas s'imaginer, c'est pas possible. Et nous allons voir à travers quelques événements de la Bible, ou tout simplement des paroles qui nous sont rapportées, eh bien que la grâce, c'est quelque chose de tout à fait particulier dans laquelle nous sommes invités à rentrer. Dans le ciel, il n'y aura plus la loi. Il n'y aura plus la voix, puisque la foi, puisque nous verrons face à face. On n'aura plus besoin de ça. Mais la grâce, elle subsistera toujours. Et ce sera le résultat, finalement, de cette grâce que nous avons reçue ici-bas, pour la vivre pour l'éternité. Et donc, je parlais d'intituler mon message. Je l'appellerai volontiers ce matin « La logique déconcertante ou déroutante de la grâce ». Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je voudrais simplement introduire en disant que Dieu ne compte pas comme les hommes. Vous savez compter, on a tous appris à compter. Hein. Alors, il est loin le système du boulier, vous savez, hein. On a appris comme ça peut-être à l'école maternelle. Et maintenant, on a des calculettes, on a des ordinateurs, on a toutes sortes de choses, et on sait compter. Hein. Ouah ! Je crois qu'on est dans une société où les nombres, ou les chiffres ont une importance très importante. Mais Dieu nous dit, mais attendez, mes pensées ne sont pas ce que vous pensez. Et la conséquence, puisque vous marchez avec vos pensées, mais moi je voudrais vous dire que mes voix, elles sont très loin de vos pensées. Et au lieu d'aller dans ce sens-là, vous allez complètement dans le sens contraire. Donc Dieu ne compte pas comme les hommes. Selon toute logique, parce que nous sommes quand même dans une nation, on est quand même très imprégné de cette mentalité cartésienne. Compter, voilà. Déduire, les déductions et toutes sortes de choses, et dans la logique mathématique que nous connaissons bien parce qu'on nous l'a appris, eh bien, selon cette logique mathématique, nous voyons, et qui est capable de renverser la science de la probabilité chère à l'esprit humain, alors je vais pas être trop compliqué, mais je vais mettre un petit peu les choses en place, c'est que nous disons ceci, c'est ceci, 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 4, ça fait 6, et ainsi de suite, c'est très carré, c'est comme ça, et ça peut pas être autrement, parce que c'est comme ça. On s'y retrouve quand même, hein. On s'y retrouve naturellement. Et cette science de la probabilité, en se disant, s'il y a ceci, si je fais ceci, si je fais cela, il n'arrivera que ceci, il n'arrivera que cela. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Et si nous raisonnions, et si nous voulons raisonner, nous chrétiens, comme le commun des mortels, eh bien je veux dire que Dieu ne sait pas compter. Ah oui, que Dieu ne sait pas compter. Pourtant, Dieu ne sait pas compter, cependant, il ne se trompe jamais. Alors allez, imaginez un petit peu comment on pourrait expliquer ça. Dieu est parfait, il est saint, il est juste. Il ne sait pas compter comme nous comptons, et il ne se trompe jamais. Et nous, lorsque nous montrons notre ardoise ou que nous comparons notre ardoise avec celle de Dieu, eh ben, nous avons toujours tout faux. Et je vous choque pas, hein. Moi, partir en vacances, ça me donne des ailes. Vous allez voir. Eh oui, parce que c'est sympathique. J'ai passé mon temps à faire que des calculs. Vous allez voir. C'est comme ça. Nous, nous avons tout faux. Étonnant, hein? Ouais. Étonnant les règles de calcul. Autant, nous dit Dieu, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et autant vos voix n'ont rien à voir avec mes voix. Parce que derrière, Dieu a une raison, ou il a plutôt au pluriel des raisons. Dieu a des buts à atteindre, et il y a des desseins qui nous sont cachés, et qu'il va nous faire la démonstration que 1 plus 1, ça ne fait pas forcément 2. Ça, c'est notre logique, c'est notre raisonnement à nous, mais c'est pas forcément dans l'économie morale, spirituelle, céleste, que Dieu nous enseigne. Alors, j'espère que vous saurez compter à la fin du culte. Parce que là, hein, ça va être un peu... Il va falloir que les raisons, les desseins de Dieu, parce qu'il parle de mes voix, et il parle de nos voix à nous. Mes voix à moi, Dieu, et vos voix à vous, les hommes. Alors, quelques histoires qui font réfléchir. Quelques histoires bibliques, hein, attention, hein. Quelques histoires qui font foi que le Dieu de la perfection, quelquefois que l'on juge en disant, mais Dieu, tu ne sais pas compter, c'est pas comme ça que ça se passe, que le Dieu de la perfection ne compte pas comme nous. J'en prends à témoin une parabole qui nous est laissée dans l'évangile. Voici un berger qui va abandonner son troupeau de 99 brebis. Voilà. Il s'aperçoit qu'en comptant, mais remarquez, en comptant les brebis, on peut s'endormir. Hein. Faites attention, hein, c'est le meilleur des somnifères. On n'a jamais inventé mieux. Hein. Il compte une fois, deux fois, trois fois. Oh, il se dit, c'est pas vrai, mais il bouge toujours les brebis. Il faudrait presque les attacher hein, pour qu'on puisse les compter. Enfin, il les compte en les faisant passer par un portillon, vous comprenez. C'est plus facile comme ça. Hein. Alors, il réfléchit, il dit, mais il m'en manque une. C'est pas possible, il m'en manque une. Et voilà cet homme qui va aller chercher ou rechercher une de ses brebis dont il s'aperçoit qu'elle est égarée. Alors, il regarde d'abord autour de lui. Il dit, mais bon, je comprends pas. Je l'ai fait rentrer dans le bercail. Et il en manque une. Alors il regarde un peu autour de lui, il regarde de plus en plus à l'horizon, puis il s'aperçoit que finalement tout ça c'est vide. Il n'a pas retrouvé sa brebis. Et c'est une histoire complètement absurde, hein. Franchement, que Jésus nous raconte des histoires comme ça. Pourquoi faire et pourquoi dire? Et pourquoi veut-il finalement que nous apprenions à compter? Cet homme, c'est une histoire ridicule. Parce que, admettons que ferait-il à ce moment-là? Après avoir été chercher sa brebis, d'avoir passé peut-être des heures, voire la nuit, rentrer peut-être le lendemain soir, heureux de l'avoir mis sur ses épaules, et que s'il revenait pour découvrir, tout simplement, que, après avoir ramené la manquante, eh bien, tout simplement, que les 99 sont complètement éparpillés, il n'en reste plus qu'une quarantaine, qu'elles ont été livrées au loup, qu'elles ont été livrées tout simplement aux voleurs, c'est quand même une curieuse arithmétique, parce qu'en disant j'en ai 99, je les garde, celle-là, tant pis pour celle qui est perdue. Je veux quand même pas, après une journée de travail, me mettre en frais, courir la montagne. C'est Jésus qui nous apprend à compter comme ça. Pour une seule, il va laisser dans ce désert, enfin, dans sa bergerie, là, dans le coin de la vallée, il va laisser les autres, elles n'auront pas de surveillance, elles seront peut-être dans un enclos, mais... On sait très bien que les bêtes sauvages, elles ont vite fait de passer l'enclos et puis de ravager, de disperser le troupeau. Il a été en chercher une, il revient à son bercail, il n'en reste plus qu'une dizaine. Et il est complètement abasourdi, il se dit, mais quelle bêtise j'ai fait de faire une chose pareille. Eh ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'arithmétique bizarroïde, on peut dire ça comme ça. Une deuxième histoire qui nous est donnée dans la Bible, imaginez-vous, l'Évangile nous raconte... Le geste insensé, un geste insensé de cette femme qui porte le nom de Marie, on la connaît dans les évangiles, et qui prend, oh oui, parce que c'est à peu près la quantité qui nous est donnée selon les commentateurs, qui prend un demi-litre, d'un parfum de nard de grand prix. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'offre un parfum à ma femme, je n'offre pas 1 000 litres, ça se fait pas. Hein? Déjà comme ça, c'est cher. Voilà. Alors, 1 000 litre, imaginez-vous, et ce 2 000 litres, ça équivalait, en gros, selon toujours le commentateur, eh bien, à peu près 1 an de salaire pour un ouvrier. Wow, mesdames, n'en demandez pas de trop, hein, parce que là, c'est la faillite complète. Hein. 1 000 litres. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme, cette Marie avec 1 000 litres? Elle va les renverser sur les pieds de Jésus. Jésus, là, est dans une maison, les gens sont à table, elle vient devant tout le monde, devant les disciples qui font des yeux, ils sont exorbités, ils se disent, mais elle est malade, elle est folle. 1 000 litres, qu'est-ce que nous aurions pu faire? Il y en a un qui va prendre la parole parce que c'est le trésorier principal, il s'appelle Judas. Et il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? On aurait pu le dépenser, certainement, et le donner à tous les pauvres de France et de Navarre. Eh oui, c'est scandaleux une chose pareille. Cette dépense, cette valeur. Alors que quelques millilitres, parce que c'est comme ça qu'on le vend, hein, le parfum, hein, quelques millilitres auraient suffi. Elle voulait faire plaisir à Jésus. D'accord, on est d'accord. Elle aime Jésus parce que véritablement elle l'a découvert comme son sauveur. Mais elle aurait pu lui en mettre 3 petites gouttes avec un compte-gouttes, vous savez. T'es content, Jésus? Sur le bout de tes pieds, hein? Mais là, c'est le litre qui passe. Enfin, c'est le 2 000 litres qui passe. Les pieds, la moquette, tout ça. Enfin, la moquette à l'époque. Mais toujours est-il sur le sol, battu. Tout ça, c'est perdu. Voilà. Tout ça, c'est perdu. C'est le mot. Quel gaspillage. Ouais. Mais vous savez, notre Dieu qui est riche en brebis, ne se résout pas au gaspillage d'en perdre une. Que notre Dieu qui est riche en parfum de son amour, eh bien, il peut le déverser sur le monde entier. Ça, c'est certain aussi. C'est une folle attitude que Marie a eue. D'ailleurs, elle va être critiquée pour ça. Et Jésus lui dit, non, non, vous n'avez pas compris, hein. Vous savez ce qu'elle fait, là? Eh, vous n'êtes pas encore au niveau, hein. Un et un, ça fait pas deux, hein. Vous n'êtes pas encore au niveau parce qu'elle est en train de glorifier déjà mon sacrifice et ma mort. Elle embaume en prévision, en annonçant déjà ma résurrection, parce qu'elle avait déjà compris que Jésus mourrait, mais qu'il ressusciterait. Il y en a beaucoup qui sont arrêtés à la mort de Jésus, hein, plus rien après, rien. Et elle, à travers ce don, elle a dit, mais il ressuscite, il embaume déjà mon corps. Et puis, cette autre histoire aussi assez étonnante, c'est dans Marc, l'évangile de Marc, que nous lisons une scène non moins époustouflante de générosité. Ah, 1 et 1, ça fait pas 2. Oui, je dis bien de générosité. C'est une pauvre femme, une veuve, qui dépose dans le tronc du temple de Jérusalem 2 petites pièces. Elle n'a que cela. C'est sa fortune. C'est son compte en banque. C'est le crédit dont elle dispose. Elle n'a pas besoin d'avoir, toutes les méthodes que nous avons aujourd'hui, ou les moyens aujourd'hui, carte bleue, et puis carnet de chèques, etc., etc. Elle a tout dans sa poche. Elle a que ça. Rien d'autre. Tout l'argent qu'elle possède, et j'ajoute, hein, pour ne pas mourir de faim, parce qu'elle aurait pu faire autrement. Une part pour Dieu, une pièce pour Dieu, et une pièce pour moi. Elle a dit tout pour Dieu. Et elle a mis ces 2 petites pièces. Ah, c'est pas ce qui allait faire exploser la trésorerie du temple, hein. Ça, c'était certainement pas, hein, c'était certainement pas. Mais elle avait ce seul petit pécule, tout simplement, pour avoir son pain pour ce soir, peut-être, ou pour demain matin, après, il n'y aurait plus rien du tout. 2 pièces. C'est-à-dire toute sa misérable fortune d'indigente. Quelle imprévoyance! Qu'est-ce que nous aurions fait? Seigneur, je te donne, mais je pense aussi, demain, je vais avoir besoin. Ça serait de la prévoyance, et c'est de la prévoyance, je veux pas dire le contraire, naturellement. Mais Jésus va dire un mot avec cette affaire quand il regarde. C'est une provocante comparaison au regard des riches pharisiens, des riches dévots, qui, eux, remplissent le tronc à pleine main. Et ils ont pris les petites pièces jaunes, hein, vous comprenez, parce que ça fait du bruit, et ça s'entend, et c'est bien que ça s'entend. un billet quand ça tombe au fond d'un tronc, ça ne s'entend pas. Mais là, ça s'entend bien, ça dégringole, vous savez, comme une cascade. Ils prennent ça à pleine main, mais ils ne donnent que le superflu de leur richesse. Elle, elle a donné son nécessaire. Seigneur, je comprends pas la manière dont tu comptes. Franchement, tu te rends compte, tu vas honorer une pauvre petite femme, somme toute, hein, qui ne paraît pas beaucoup, elle est transparente finalement, personne ne la remarque, et qui, elle, va donner vraiment tout ce qu'elle peut donner, pas grand-chose, c'est-à-dire que ça va pas aller loin. Et tu fais la démonstration que, quand même, tu aurais pu dire un petit mot aux autres, hein, qui ont donné vraiment beaucoup, hein. Jésus dit, mais elle a donné de son abondance, de tout son nécessaire, et eux, ils ont donné de l'abondance. Hein, oui. C'est ainsi. Les choses sont ainsi. Elle a donné plus que les autres. Seigneur, alors là, je comprends pas, hein. Parce que moi, si j'ai 100 000 euros, bah, ça représente quand même une certaine somme, mais il y a des sommes encore plus grandes, hein, naturellement. Voilà. Je comprends pas. Et puis, qu'est-ce que nous penserions de ce fermier qui a réussi dans la vie, riche agriculteur, qui engage à différentes heures de la journée des ouvriers où il va payer, où il paiera les derniers embauchés au même prix que les premiers. Je voudrais vous donner un conseil. C'est pas la peine, avec ce genre d'employeur, d'aller travailler à partir du 1er octobre. Hein. Vous arrivez tout simplement le 30 octobre, vous vous présentez, vous venez chercher votre salaire, et vous aurez la même chose que ceux qui ont travaillé le mois. Vous allez voir comment il va vous recevoir, votre patron. Et vous venez avec la page ouverte de l'Évangile. C'est écrit. Et lui, il va vous dire, moi j'ai écrit aussi quelque chose pour vous. Ah, c'est curieux, hein, quand même. Hein. Eh oui, c'est quand même curieux, toutes ces affaires. Hein. Eh oui, les derniers qui arrivent, ils vont être contents, ils vont être embauchés à la 11e heure. Et quand ils vont passer devant monsieur le comptable de l'entreprise, ils vont d'abord être payés les derniers, hein, je crois, ou les premiers. Hein. Mais c'est les premiers. Je peux vous dire que, moi j'aurais bien voulu voir, excusez-moi l'expression, mais j'emploie quand même le mot, la bobine. Des autres, hein. Waouh, ils se sont dit, mais c'est pas possible une chose pareille. Ça a dû être certainement la révolution, hein. Mais ça murmurait, hein, de toute façon. Remarquez, ça murmure toujours 2000 ans après, hein. C'est toujours la même chose, hein. Ouais. Ils sont payés le même prix de salaire. Et les autres disent, mais dites donc, on a mouillé notre chemise, nous, hein. On est là depuis 6 heures le matin. Et les autres qui sont arrivés à 18 heures le soir, ils vont recevoir la même paye, mais c'est injuste. La révolution, hein. On renverse les choses, hein. Eh ben, moi, je voudrais vous dire que c'est un scandale social et économique, hein, dans le monde des hommes d'aujourd'hui et dans le monde des hommes de toujours, hein, sur le plan, finalement, de la motivation. Je peux vous dire que ça démotive pas les gens. Ils arriveraient tous le 30 du mois pour être payés, hein. Parce que nous sommes dans une société de mérite, quand même, d'effort. Hein. Ouais, en politique, on nous le dit, hein, on nous dit, mais attendez, travailler plus pour gagner moins. Non, c'est le contraire. Non, c'est... Bon, mais c'est vieux, ça, déjà. Et puis toutes sortes de choses. Voilà, on va vous stimuler, vous allez avoir une prime parce que vous allez travailler maintenant 23 heures sur 24. Vous aurez juste le temps de dépenser. Enfin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quand même assez curieux. Est-ce qu'un patron d'aujourd'hui ferait la même chose? Ça, je crois pas. Hein. Parce que s'il le faisait, il aurait tout de suite l'inspection du travail qui viendrait le voir sur dénonciation. Parce que bon, l'inspecteur du travail, lui, reste assis dans son bureau en attendant que ça vienne. Hein. Enfin... Excusez-moi, mais c'est vrai que s'il n'est pas sollicité, c'est comme les gendarmes, quand on va pas les voir, ils viennent pas. Hein. C'est quelquefois, ils se déplacent sur les bords des routes, mais toujours est-il que, voilà, l'inspection du travail serait certainement assez trousse avec un redressement et un procès, etc., etc. Et il y a aussi cet autre récit qui met en évidence un jeune homme de bonne famille, dilapidateur des biens familiaux, vous l'avez reconnu naturellement, parce qu'il est bien de la fortune, et en plus c'est un bon à rien, parce que s'il avait voulu travailler, il avait tout de suite, eh bien, de quoi faire. Il était le maître dans la maison après son père, et en collaboration avec son frère. Mais on peut dire que c'était un bon à rien. Lui, pour lui, il ne pense qu'à s'amuser. Il était, comme on le dit souvent et je le répète, il était trop heureux. Il était malheureux d'être heureux, tout simplement. Et il revient un bon jour après avoir fait toutes sortes de facéties à l'extérieur et qui revient à la maison où son père l'accueille à bras ouverts comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que je suis content, mon fils, que tu reviennes. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. On n'a pas entendu de parler de toi pendant 4 ans. Mais à regarder la mine de son fils, il a tout de suite compris que ça s'était pas forcément bien passé, l'aventure. Mais il l'accueille quand même. Il l'attend jour après jour. Et il va l'accueillir comme d'une manière tout à fait particulière, comme on peut l'accueillir, comment un père peut accueillir un père qui aime, comme s'il ne s'était rien passé. Et il lui fait la fête. Comment vous raisonnez à toutes ces histoires? On est un peu choqué et on se dit, mais c'est pas normal une chose pareille. C'est pas logique. Si l'on s'en tient à tout ce qui est raisonné et raisonnable, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bible qui nous raconte, qui prend le contre-pied à toutes ces choses? Mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées ne sont pas mes pensées à moi. C'est décoiffant, hein? Ouais. C'est déroutant. Je dirais que c'est un scandale. C'est un scandale pour la conscience de la propre justice. Ah, je peux vous dire qu'il y en a eu qui ont poussé des cris et qui ont hurlé au scandale, qui ont fait toutes sortes de choses, qui ont laissé monter dans leur cœur des pensées criminelles à l'égard de Jésus. Et ils l'ont nourri pendant 3 ans, cette pensée de meurtre. Ah oui, effectivement, scandale pour celui qui est suffisant de lui-même, pour celui qui se dit « mais moi, moi, moi et moi, moi tout seul, hein, je sais tout, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, etc. » Alors ça, c'est véritablement eh bien le Trafalgar hein, pour eux, hein. C'est le naufrage, hein. Bien sûr, scandale pour la conscience. C'est proprement révoltant une histoire pareille, ce que je suis en train de vous raconter, qui finalement... Cet homme dont nous allons parler en est l'illustration. Ouais. C'est proprement révoltant ce brigand à la droite ou à la gauche de Jésus qui depuis toujours a fait des coups de main, qui était un bandit de grand chemin et quand il a trouvé l'opportunité qu'il pouvait aussi se mettre dans la résistance contre les soldats romains ou contre l'occupation romaine, il s'est pas gêné parce que là, il était tout autorisé à tuer comme il voulait, hein. Ouais. Il était dans la milice de ceux qui voulaient véritablement évacuer, eh bien, les Romains les faire sortir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons penser de ce brigand sur la croix, qui, quelque part, est un voleur notoire, qui est un meurtrier, et qui se repent au dernier moment? Oh. Ouais. Juste à la fin, il est sauvé in extremis, sans avoir demandé pardon à tous ceux qu'il a fait souffrir, ou aux familles qu'il a fait souffrir en tuant les uns et les autres, etc., etc., ou les vols qu'il a commis. Ça, c'est un peu difficile à comprendre, hein, tout cela. Parce qu'aujourd'hui, ben, on le voit tous les jours, malheureusement, hein. Voilà, on voit les attitudes des gens, hein. Il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui sont violentées, hein, il y a des enfants qui sont enlevés et toutes sortes de choses. Alors, la population dit, voilà, eh bien, il mérite la prison. Et si j'étais à sa place ou à la place des justes, moi, c'est pas 10 ans que je donnerais. Ça serait 30 ans à perpétuité. Et voilà, et c'est comme ça. Hein. Œil pour œil, dent pour dent. C'est le débat de notre société, mais c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été. Hein. Alors, comment il fait ce garçon-là qui arrive au dernier moment et que Jésus lui dit? Eh bien, parce qu'il lui pose quand même la question, parce qu'il faut demander. Si vous demandez pas, vous n'aurez rien. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui répondre immédiatement, sans réflexion. Il lui parle pas du purgatoire. Il lui dit « Mais tu seras aujourd'hui même avec moi dans le paradis. » Alors moi, pour moi, je comprends plus rien parce que 1 et 1, ça fait pas 2. Hein. Eh oui, aujourd'hui avec moi, tu seras avec moi dans le paradis. Le coupable doit payer. C'est tout à fait logique. Normalement, humainement parlant, naturellement parlant. Et tout cela pour dire, Le calcul de Dieu et sa façon de faire les comptes fait ressortir nos vrais problèmes d'hommes. Je dis bien, pas des faux problèmes. Ressortir la problématique de notre humanité, c'est-à-dire la jalousie. Il a, moi j'ai pas. Il a plus, moi j'ai moins. Il fait ceci, moi je peux pas le faire. Et on multiplie les choses à l'infini. La jalousie est notre esprit de jugement qui, non seulement est un esprit de jugement, mais devant certaines choses que nous ne comprenons pas et qui peuvent nous choquer et nous scandaliser, nous des hommes pécheurs, quelquefois ça s'ajoute avec la méchanceté. Et c'est ce que Jésus veut montrer dans cette affaire. Bien fait pour la brebis qui s'est égarée, elle avait qu'à rester dans le troupeau. Bien sûr. C'est bien fait également, tout simplement pour, en effet, ce parfum qui a été perdu sur le sol, elle avait qu'à réfléchir, et puis on mettra un peu moins, ça ne serait pas arrivé. Elle a voulu jouer à la générosité, et puis voilà que tout est perdu maintenant. Et puis, je dirais que cette petite pauvre femme, elle avait qu'à réfléchir aussi, hein. Si elle veut manger demain, elle avait qu'à garder une pièce pour elle. Et puis le fils prodigue, après tout, il n'avait pas besoin de faire toutes ces bêtises, il ne serait pas arrivé au point où il en est arrivé, et puis on peut les multiplier. Et puis ce voleur, qui à la croix du calvaire, va véritablement entendre qu'il est sauvé, alors que lui, il n'a jamais été dans une synagogue, il n'a jamais été dans le temple, il n'a jamais été dans une église, il n'a jamais lu sa Bible, et ceci et cela, c'est bien fait pour lui. Jésus aurait pu lui dire, bah, écoute maintenant, voilà, tu n'as que ce que tu mérites, tout simplement. C'est ça le calcul de Dieu. C'est ça le calcul de Dieu. Et quelquefois, ça nous justifie nos attitudes. Quelquefois, on l'entend dans l'Église, c'est dommage. Parce qu'il faudrait avoir une autre envergure, un autre horizon, ou un horizon un peu plus élargi. De savoir le pourquoi, le comment, de ceci et cela, les tenants et les aboutissements d'une situation. Il boit. Ah, ouais, il boit. Ah oui, mais qu'est-ce qui l'a conduit à boire? Et puis, il y a toutes sortes de drames dans la vie. Voilà, ah, cette jeune fille, cette jeune femme, elle est prostituée. Mais dites donc, c'est bien de le dire, mais si on s'arrête là, on va tomber à côté du problème, et Dieu pourra nous dire, dis donc, toi, tu ferais mieux de me remercier de ne pas avoir été dans des conditions peut-être d'enfance, ou de peut-être pas avoir été violé, ou de ne pas avoir commis ceci et cela, d'avoir été entraîné, ou d'avoir été battu, parce que tu es devenu méchant, il est devenu méchant. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute son enfance à recevoir des claques, et à être traité par ses parents de bon à rien, qui ne fera jamais rien dans l'existence. Qu'est-ce que vous voulez? Un et un? Je ne sais plus du tout si ça fait deux maintenant. Alors, ce n'est pas pour justifier. Parce que je voudrais vous dire que la grâce de Dieu, ce n'est pas une faiblesse. C'est le contraire de la faiblesse. C'est une force d'amour, d'aimer ce qui n'est pas aimable, d'aimer ce qu'on ne peut pas aimer naturellement. Et ça, c'est un fruit de l'esprit. Ouais. On aimerait bien justifier nos raisonnements en disant, ben voilà, celui-ci s'est cassé la figure, mais je lui avais bien dit. Eh oui. Ben oui, on lui a dit. Parce qu'il y a quelque chose, le bien que nous faisons, on s'en sert pour nous glorifier et nous justifier. Le mérite est quelque chose de viscéral pour les hommes. Et de cela, on tombe très vite dans le moralisme. Mais, il y a quand même des enseignements de Paul et des enseignements de Jésus. Qui es-tu pour juger ton frère? Qui es-tu pour ceci et cela? Il faut juger, hein. Mais, c'est pas dans les apparences. Jésus nous dit, selon la vérité. C'est toute la différence. Et je peux vous dire que c'est pas simple et c'est pas facile. On a vraiment besoin de toute la grâce de Dieu, parce que à chaque fois que nous sommes confrontés avec un jugement qui peut nous être demandé ou une situation que nous devons juger, faut que moi je me remette à ma vraie place et de dire, mais Seigneur, si j'étais à la place des autres, comment tu me jugerais moi-même aussi? Est-ce que je suis exempt de tout péché? Est-ce que je ne serais pas peut-être aussi dans une situation d'une façon ou d'une autre où je pourrais être à la place de l'autre quelque part? Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. La pierre d'achoppement pour l'homme perdu, et je souligne bien l'adjectif perdu. Il n'y en a qu'un qui pouvait dire, moi je suis juste, je suis saint, je suis parfait, c'est Jésus. Donc cette pierre d'achoppement, ou pour l'homme qui se croit juste, s'appelle simplement la grâce infinie de Dieu. La grâce infinie de Dieu. Je suis semblable aux autres. Je suis vulnérable comme les autres, je suis faible comme les autres. Et ce n'est pas mon titre, ce n'est pas ma position, ce n'est pas là mon éducation ou mes études ou ceci et cela, mes capacités, mes expériences, qui vont me donner d'être au-dessus des autres. Et notre monde fonctionne que comme ça, hein. Voilà. Et pourtant, je dois m'apercevoir et je dois être renvoyé à ce que je suis moi-même. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne serais pas là pour vous parler si Dieu ne m'avait pas fait grâce. S'il ne m'avait pas fait miséricorde. Il y en a peut-être qui ont fait plus que moi. Il y en a qui ont fait moins. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Et pas forcément en bien. Alors, je me dis, quand je suis confronté à quelque chose, Seigneur, j'ai besoin d'avoir la pensée de ton cœur et les yeux pour voir comme toi tu vois. Et ça nous ramène vraiment à l'humilité, à la modestie. Ou dans l'Église. Je crois que l'Église a besoin d'apprendre cette grande leçon. Pas l'Église d'aujourd'hui, hein, mais l'Église de tous les siècles, mais l'Église d'aujourd'hui. Hein. Et c'est pas les dons, c'est pas la puissance. C'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Comment Jésus s'est-il comporté devant tous ces gens, ces publicains, ces gens infréquentables, les Matthieu, hein, dans la maison de Matthieu, et puis les uns et les autres, comment s'est-il comporté? C'est cela la grâce infinie de Dieu. La grâce divine nous enseigne les mathématiques du royaume de Dieu selon la loi éternelle de son amour. Au cœur de tout cela, c'est son amour. C'est pas le dogme. C'est pas la doctrine, bien qu'elle soit à sa place. Mais derrière la doctrine, il doit y avoir véritablement l'amour de Dieu. Paul le dira dans Philippiens chapitre 2, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là, on a tout dit. C'est vrai. On a tout dit. La loi du royaume de Dieu. Ce verset que j'ai déjà cité dernièrement et que je voudrais citer parce qu'il va être au cœur de notre méditation pour plusieurs fois. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est le summum de tout. Écoutez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça fonctionne ensemble. Et cela ne vient pas de vous, merci Seigneur, de ce que tu m'apprends une grande leçon, que ce n'est pas d'en bas, mais ça vient d'en haut. Ce n'est pas moi, mais c'est toi, Seigneur. C'est le don de Dieu. Cadeau, présent, don. C'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres. Ah, Seigneur, qu'est-ce que j'aime faire des choses pour te plaire. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Et de dire et de finir par dire, Seigneur, maintenant je sais compter, hein, j'ai découvert que 1 et 2, 1 et 1, ça fait 2. Seigneur nous met 0. Ah oui, c'est sûr que sur la copie, il va y avoir 0. Comprenons une fois pour toutes que Dieu accorde ses dons de grâce et non des salaires. S'il y a récompense dans la Bible, ça sera pour l'autre côté. Et on n'en connaît pas grand-chose de ces récompenses. On ne sait pas, alors n'en parlons que ce que la Bible nous enseigne. Mais sur la terre, c'est qu'avec Dieu, il est le maître, moi je suis son serviteur, et on discute salaire avec Dieu. Seigneur, je fais le bien, tu me bénis. On lui dit pas, quand je fais le mal, tu me maudis. Hein. Ça, on l'oublie. Hein. Mais Seigneur, c'est notre raisonnement, comme par rapport à nos relations humaines. Salaire de bonne conduite, salaire parce que je suis ceci, parce que je fais cela, etc. Car la grâce ne peut être réduite à des principes comptables. Ça va beaucoup plus loin. Ce ne sont pas des principes comptables. Alors je dirais que les esprits calculateurs, vaniteux et mesquins, s'abstenir. Hein. Et j'espère que vous allez pas me lapider maintenant, après avoir entendu tout cela. Hein. Parce que je suis pas revenu de vacances. Je finis. Pour Dieu, le cœur supplante la logique raisonnable et raisonnée, sage des hommes. Paul a écrit ceci dans Romains chapitre 5, verset 20. Et là aussi, c'est quand même assez quelque chose de prendre en considération. Romains chapitre 5, verset 20. Quand nous lisons cette parole, écoutez bien. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Ben oui. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur. C'est Paul qui le dit. Et pourtant, au niveau du dogme de la loi de Moïse, de l'Ancien Testament, parce qu'il a été pétri dedans, ben je peux dire que il avait appris les mathématiques comme il le dira, hein, quand il parlera de géométrie. Voilà, je voudrais que vous connaissiez la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Ça, c'est aussi des mathématiques, d'arithmétique en tous les cas. Et c'est parce qu'il avait bien compris. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur de ce que je me souviens de tout ça. Ah, dites donc, hein, c'est quelque chose. Là encore, c'est très choquant ce que nous dit Paul. Or, la grâce faite aux hommes perdus, c'est pour les perdus, c'est pas pour ceux qui se disent « moi, j'ai pas besoin de Dieu ». C'est pour les perdus que nous sommes et nous le savons, ne coûte rien à ceux qui reçoivent cette grâce. Pour nous, c'est gratuit. C'est pour ça que dans le mot « grâce », on le verra la prochaine fois, je vais faire un petit peu de vocabulaire la prochaine fois. « Grâce » a donné le mot latin « gratis » ou « gratos ». Gratis ! Rien à payer. Rien. C'est gratuit. Mais ça a tout coûté au donateur. C'est pourquoi au cœur même de l'évangile, il est donné cette parole, car Dieu a tant aimé le monde, un monde infâme, un monde corrompu, un monde perdu, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout simplement, ça s'appelle la grâce. La grâce infinie de Dieu. C'est l'essentiel secret. Et là, je voudrais que vous reteniez cette phrase. C'est essentiel pour chacun d'entre nous et ça peut nous rétablir. Ça peut nous conforter dans la marche que nous avons avec en suivant Jésus. Ça peut nous délivrer de nos culpabilités dont le diable exploite à outrance nos peurs et nos craintes. Écoutez bien, Dieu m'aime. Non en raison de ce que je suis ou de ce que je fais ou j'ai fait en bien et en mal, mais en raison de ce qu'il est dans sa nature d'aimer. Le berger qui va chercher. Le fils prodigue, le père, c'est quoi? Le berger qui aime. Le père qui aime. La pauvre femme qui met ses deux pièces, sa fortune, c'est parce qu'elle aime Dieu. Et que vous dire les autres? C'est parce que l'employeur qui donne la même somme à ceux qui sont arrivés en retard, c'est parce qu'il aime l'homme, ses ouvriers. Il sait qu'ils ont une famille à nourrir. Ah, ils sont venus trop tard, ce sont des retardataires, mais il va donner la même chose. C'est en raison de l'amour de Dieu. Et vous savez, si on a compris ça, on a tout compris dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Et on vit plus heureux, hein. Au lieu de se tourmenter, au lieu de se triturer introspecter dans notre conscience, dans notre âme, en disant mais est-ce que je suis vraiment dans l'alignement ou pas? Est-ce que je marche pas à côté de la route? Hein, je sais plus du tout où j'en suis rendu. Mais quand on a compris ça, on a compris tout. Et moi, je crois que Dieu m'aime. Il faut que vous puissiez comprendre que Dieu vous aime au même titre qu'il m'aime. Il n'y a pas de différence. Le royaume de Dieu ne dépend pas de nos mérites, de nos performances religieuses, morales, voire même spirituelles, de nos efforts et de nos calculs, mais de croire que parce que quelqu'un a remporté à ma place la victoire coûteuse de mon salut, alors à ce moment-là, ça change tout. C'est pas moi qui ai payé, c'est lui qui a payé pour moi. et que, à ce moment-là, je peux croire que Dieu m'accepte tel que je suis. Est-ce que, au milieu de nous, est-ce que vous croyez que Dieu vous accepte tel que vous êtes? Ah, l'objection, mais Seigneur, tu sais, moi, je suis petit. Il y a tellement de choses dans ma vie qui sont pas encore en règle et tout ça. Ben, Dieu vous aime quand même. Et avec ça, si vous le comprenez, eh bien, il va vous changer. Il ne peut pas rien faire tant que vous bloquez, vous avez les freins, la main sur le frein. Seigneur, je viens à toi. J'ai péché cette semaine. J'ai fait des choses, j'ai pensé des choses. Je me suis livré à toutes sortes de choses. Je viens, je suis écrasé par ma culpabilité, je suis venu quand même. Ben, vous avez bien fait de venir. Parce qu'il faut pas rester dehors. Faut que vous veniez pour entendre la parole de Dieu qui vous dit, mais je t'aime. Dieu nous accepte. Il nous accepte tel que l'on est. Il m'aime et il me pardonne. Ah, ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vraiment tu m'acceptes? Est-ce que véritablement tu m'aimes? Mais est-ce que vraiment tu vas vouloir me pardonner? Bah, écoutez, c'est pas possible une chose pareille. Alors, je peux dire, je suis la brebis égarée, recherchée et retrouvée. Je suis le fils prodigue que le Père attend. Je suis le serviteur ingrat, indélicat, auquel, j'en ai pas parlé de celui-ci, mais ça me vient à l'esprit, auquel la dette immense a été remise. Vous savez, celui qui devait 10 000 talents et puis l'autre qui tourne, hein? La grâce! C'est la grâce. Je suis l'ouvrier de la vigne qui reçoit autant que les premiers, même s'il est arrivé le dernier. Alors maintenant, une dernière question. Maintenant, comment voyons-nous Dieu? Parce que la question est là. Dieu nous voit, mais nous, comment nous le voyons? Un juge ou un père? Le thème, c'est la grâce. Hein? Un juge ou un père? Nous, à Saint-Nazaire, on a un avantage. Le tribunal de la loi est derrière mon dos. Et le tribunal de la grâce, il est ici. On est juste à côté du tribunal, hein? Hein? Vous y allez souvent à côté? Allez, vous avez choisi le bon endroit, il me semble. Ouais. Une dernière réflexion. Dans l'Ancien Testament, toucher l'arche de l'Alliance, qui n'était qu'un instrument matériel, mais néanmoins avec une teneur et une signification spirituelle que nous connaissons, toucher l'arche de l'Alliance était synonyme de mort. Dans le Nouveau Testament, toucher Jésus par la foi est un signe qui nous guérit et qui nous fait vivre sur la seule base de la grâce. La loi dit « tu ne toucheras pas, sinon tu mourras ». L'évangile de Jésus, le royaume de Dieu et la proclamation de ce message extraordinaire, c'est Jésus qui nous dit « venez à moi, touchez-moi ». Et vous aurez la guérison, vous aurez la vie. Alors guérison physique, guérison morale, guérison psychique, guérison psychologique, guérison aussi, eh bien, spirituelle. Alors, laquelle? Laquelle représente le mieux la vie spirituelle de chacun dans toutes les histoires que je vous ai racontées? Vous les avez contées, toutes ces petites histoires? Qu'est-ce que cela représente? Et je termine par une citation que quelqu'un a faite. L'homme est né dans ce monde brisé, abîmé, détruit par le mal, par le péché. C'est un acquis. Sa vie, toute son existence durant, il n'est que réparation en tout genre, à travers les brisures, les cassures et les fractures. Ainsi, la grâce de Dieu, je dis bien la grâce infinie, la grâce incommensurable de Dieu en est, passez-moi l'expression, en est la colle qui réunit, qui unit les morceaux dispersés. C'est dit, ça vient pas de moi, mais néanmoins ça veut dire ça. La grâce de Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait grâce, éclatée, séparée en 1000 morceaux, tant dans nos personnes propres que dans l'histoire des hommes et dans cette unité humaine. Éclatée. Et moi je dis que si vous me permettez d'utiliser cette image que cet auteur donne, c'est véritablement la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est la colle, on pourrait dire, à travers le sang de Jésus-Christ qui nous réunit et qui nous unit maintenant avec le Père et qui nous unit avec tous les hommes qui nous sont semblables. parce qu'il n'y en a pas un seul qui n'est pas pécheur. Et Dieu est venu nous pardonner dans sa grâce infinie. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier et te bénir parce que comment pouvons-nous parler ainsi? Comment pouvons-nous, Seigneur, en effet, en tant que tout simplement personne humaine, réaliser que il y a véritablement un abîme dans nos pensées par rapport aux tiennes, qu'il y a là, Seigneur, d'autant plus de distance entre tes voix à toi et nos voix à nous. Oh, nous ne sommes que des hommes et nous sommes sur la terre, nous avons des rudiments, des éducations, une société qui nous a appris à penser comme ça parce que nous ne connaissions pas autre chose, mais une chose que nous avons appris, c'est que en lisant l'évangile, en venant à Jésus-Christ, en proclamant ton royaume, eh bien, tu nous as rendus capables de croire à tout cela et ainsi de rétablir l'équilibre. Merci Seigneur, parce que moi, ce qui me réjouit le plus, c'est que tu es non seulement mon Dieu, mais tu es mon Père, que ton trône est dans les cieux, que moi je suis sur la terre, et qu'il se passe beaucoup de choses, mais que néanmoins, tu es venu, Seigneur, ramener l'harmonie autour d'une grâce imméritée, d'une grâce qui n'a pas de qualificatif, d'une splendeur, de quelque chose qui est magnificence, qui est infini, éternel. Eh bien, c'est tout simplement ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'en bénissons et nous te remercions. Jamais, tous les jours, chaque instant, chaque seconde, nous ne te dirons jamais merci, suffisamment merci, pour la grâce qui nous a été faite. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.